RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Rien ne va plus entre Paris et Alger, la crise diplomatique s'envenime. Paris rappelle son ambassadeur à Alger et annonce l'expulsion de 12 agents diplomatiques algériens. C'est une riposte à des expulsions similaires annoncées par l'Algérie. Une promesse de 800 millions d'euros pour l'aide humanitaire au Soudan. C'est le bilan d'une conférence de donateurs qui s'est tenue aujourd'hui à Londres, le jour même où le pays entre dans sa troisième année de guerre fratricide. Au Sénégal, l'ex-président Macky Sall pourrait bientôt être poursuivi en justice pour haute trahison pour sa gestion des finances publiques. Un député du parti au pouvoir a saisi le Parlement sur ce dossier. Au Kenya, 4 personnes interpellées pour trafic de faune sauvage. Elles sont accusées d'avoir voulu exporter illégalement des milliers de fourmis vivantes. Musique et l'ouverture à Abidjan du 17e FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et enfin, la sélection musicale toujours très attendue d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Enfin, le sport, le foot, le PSG et le Barça qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. La France accuse l'Algérie de mettre de l'huile sur le feu. La présidence française a réagi ce soir à l'expulsion par Alger de 12 fonctionnaires français. L'Élysée riposte et annonce des mesures de représailles. C'est le dernier épisode en date dans le bras de fer entre les deux pays. Magali Lagrange.
Paris annonce l'expulsion de 12 agents du réseau consulaire et diplomatique algérien en France et rappelle pour consultation son ambassadeur à Alger. Les autorités algériennes ont choisi l'escalade. Nous répliquons comme annoncé, affirme le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Des mesures en réponse à ce que l'Élysée qualifie dans son communiqué de décision injustifiée et incompréhensible. L'expulsion par l'Algérie de 12 fonctionnaires français, des agents diplomatiques auprès de l'ambassade de France à Alger. Selon l'AFP, il serait ce soir en route pour la France. Les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale des relations bilatérales, indique encore la présidence française, qui poursuit l'intérêt même de la France et de l'Algérie et de reprendre le dialogue. Alger justifiait hier sa décision par l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien et tenait pour responsable le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de la dégradation des relations au moment où elle venait d'entamer une décrispation.
Et lundi soir, le ministre français des Affaires étrangères a réitéré son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. C'est le sujet qui avait déclenché la crise entre Alger et Paris. C'était à l'été 2024. Le Quai d'Orsay l'a donc de nouveau affirmé aujourd'hui, la position de la France sur l'avenir du Sahara occidental est, je cite, intangible. Et puis les deux filles de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison en Algérie, appellent le président Emmanuel Macron à obtenir sa libération au plus vite. Elles l'ont demandé dans une tribune publiée mardi sur le site du journal Le Figaro. Arrêté mi-novembre à l'aéroport d'Alger, l'écrivain a été condamné fin mars à 5 ans de prison pour, entre autres, atteinte à l'intégrité du territoire. Une vingtaine de pays européens, africains et des institutions internationales se sont réunis aujourd'hui à Londres pour évoquer le sort du Soudan. Le Soudan qui est entré dans sa troisième année de guerre civile ce 15 avril. Les dirigeants ont appelé à la fin des hostilités. Ils se sont engagés financièrement à redresser, voire à améliorer une situation humanitaire catastrophique, car le conflit entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des FSR a fait 12 millions de déplacés. RFI Londres, Emeline Vin.
Un chiffre pour résumer la conférence de Londres, plus de 800 millions d'euros. C'est la somme promise par le Royaume-Uni, l'Union européenne et ses membres et les autres participants pour soutenir l'assistance humanitaire au Soudan, principalement par des colis alimentaires et du soutien pour les victimes de violences sexuelles. L'aide financière, c'était le premier objectif de cette réunion internationale, le plus facilement mesurable aussi. Deuxième but, remettre le Soudan dans l'actualité. Le chef de la diplomatie britannique a invité les participants à ne pas se résigner à un conflit inévitable. Et c'était le dernier objectif, faire progresser le processus de paix. Alors Personne ne s'attendait à un accord de cessez-le-feu dès ce mardi. D'ailleurs, ni l'État soudanais, ni les paramilitaires des FSR n'étaient représentés. Mais des partenaires de chacune des parties avaient été invités. Par exemple, l'Égypte, le Kenya ou encore les Émirats arabes unis soupçonnés d'armer les FSR. Les partenaires occidentaux devaient saisir l'occasion pour faire preuve de diplomatie patiente, selon la formule du ministre britannique des Affaires étrangères, qui espère que le conflit aura évolué vers la paix d'ici un an. Emeline Van Londres, RFI.
Il faut dire que sur le terrain, les conditions de travail des humanitaires sont dangereuses, compliquées, ciblées par des attaques. Ils ont bien du mal à acheminer l'aide. Pire, plusieurs employés y ont laissé leur vie. Caroline Bouvard est responsable du Soudan à Solidarité Internationale. C'est une organisation qui est présente au Darfour. Elle a raconté à Ouda Ibrahim les difficultés auxquelles sont confrontées au Soudan les ONG.
Première difficulté, c'est que la sécurité des humanitaires et de tous les acteurs qui travaillent avec eux n'est absolument pas assurée. Donc, depuis le début d'année, la route qui relie Tawila à Zamzam puis à El Fasher a été coupée à part quelques brefs moments, y compris pour les transports commerciaux. Donc, l'approvisionnement de l'ensemble de cette zone a été très fortement compromis. Et depuis maintenant le début du mois d'avril, même depuis le mois de mars d'ailleurs, l'accès n'est absolument plus sécurisé. L'ensemble de cette zone est en train d'être vidée de sa population. Tous les villages alentours sur Zamzam et sur toute la partie sud et ouest d'El Fasher. Il y a plus de 50 villages qui ont été brûlés dans le courant du mois de mars au sud d'El Fasher et en direction de Dar es Salaam. Et donc l'accès est tout simplement impossible parce que la sécurité des personnes n'est pas assurée.
Avez-vous à Solidarité Internationale du personnel toujours présent à El Fasher?
Nous avions réussi à renvoyer 3 collègues sur Zamzam au mois de février. On a dû les évacuer sur El Fasher parce que c'était la seule direction qui était accessible à la fin du mois de février quand les nouvelles attaques ont eu lieu sur El Fasher entre le 11 et le 19 février. Et aujourd'hui, la route entre El Fasher et Zamzam n'est pas plus praticable que celle entre Zamzam et Tawila, malheureusement. Et le fait d'être humanitaire ne nous protège clairement pas. On a déjà des collègues qui avaient été tués au mois de février sur la première attaque et ce serait apparemment à nouveau le cas.
Effectivement, des humanitaires, des médecins, des infirmiers ont été tués ou blessés lors de l'attaque de Zamzam. Quel est l'effet qui vous a marqué concernant les civils sur place?
Il y a une destruction systématique de tout ce qui est infrastructure civile, en fait, que ce soit par des bombardements aériens du côté des autorités soudanaises ou par des attaques de drones ou de mortiers du côté des RSF. Il y a notamment des attaques très ciblées sur tout ce qui est infrastructure d'accès à l'eau. Donc, toutes les pompes ont été systématiquement détruites et les panneaux solaires qui peuvent servir à l'activation des pompes sont volés. C'est un impact qui est extrêmement important sur la population puisque l'accès à l'eau notamment est vital à faire valoir auprès des deux parties qui est de cesser ces attaques sur des infrastructures civiles. Ça n'a pas d'objectif militaire en tant que tel et les conséquences elles sont sur la population.
Caroline Bouvard, responsable du Soudan à Solidarité Internationale. Et pendant ce temps, le général Hamdan Daglo dit Emeti a annoncé la mise en place d'un gouvernement rival au Soudan. Dans un message sur son compte Telegram, il annonce également une nouvelle monnaie ainsi qu'une nouvelle carte d'identité.
Libreville, 104 FM.
Direction le Gabon où la présidentielle à peine passée, les résultats officiels définitifs et la victoire écrasante de Brice Clotaire-Oligui Nguema, pas encore proclamée par la Cour constitutionnelle et les acteurs politiques et institutionnels pensent déjà à la suite, c'est-à-dire à la mise en place de la 5e République, les nominations aux nouveaux postes et l'organisation des législatives, autant de sujets que le chef de l'État a déjà en tête. Envoyé spécial à Libreville, François Mazé.
Pas encore président de plein exercice, Brice Clotaire-Oligui Nguema a déjà prévenu son administration, elle ne va pas chômer. La mise en place de la 5e République va selon lui demander l'adoption de plus de 1000 textes normatifs dans la première année. Conséquence de la suppression de la primature, les services de la présidence vont récupérer de nouvelles prérogatives. Après son intronisation, Brice Clotaire-Oligui Nguema devra nommer 2 vice-présidents, le premier à la fonction plutôt protocolaire et le numéro 2 de l'État. Le second, en charge du gouvernement, devra à la fois être un politique de poids et un technicien de l'administration. Parmi les textes urgents, la loi sur les partis politiques est attendue, de même que le découpage électoral en vue des élections locales et législatives qui pourraient avoir lieu en août, et même plus tôt selon certains interlocuteurs. C'est en prévision de ces échéances que la plateforme du président, le Rassemblement des bâtisseurs, va se muer en parti politique samedi. Il n'aura pas pour objectif d'engloutir les composantes qui ont soutenu l'élection de Brice Clotaire-Oligine Guéma, a prévenu son coordonnateur, Ange-Kevin Zigou, mais de prendre une place centrale, d'être la matrice politique d'une future majorité à l'Assemblée. François Mazé, Libreville, RFI.
Vous écoutez Afrique Soir, 22h40, à Dakar, où l'ex-président Macky Sall pourrait bientôt être poursuivi pour haute trahison. Une proposition de résolution a été déposée à l'Assemblée par un député du parti au pouvoir qui se réfère au rapport de la Cour des comptes, un rapport qui a révélé des chiffres falsifiés de la dette publique et du déficit budgétaire et 7 milliards de dollars de dette cachée sous l'administration de l'ancien président Macky Sall. À Dakar, Léa-Lisa Westerhoff.
Plus de 2 milliards de francs CFA de dettes contractées en dehors de tout circuit légal, une gestion opaque avec de nombreuses manipulations comptables. Pour le député Guy-Marius Sagna, auteur de cette mise en accusation, cette politique de dissimulation systématique, je cite, et la sous-évaluation délibérée de la dette sous la présidence Macky Sall peuvent, au regard de leur ampleur, être qualifiées de haute trahison. La haute trahison, c'est le seul chef d'inculpation qui peut viser un ancien président au Sénégal selon la Constitution. Pour que cette mise en accusation soit retenue, elle doit d'abord être adoptée à la majorité des 3/5 des membres de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par 99 députés sur les 165 qui la composent. Mais avec un parti au pouvoir, le PASTEF, qui a 130 sièges au Parlement, ce vote, quand il sera programmé, risque d'être une simple formalité. C'est la prochaine étape désormais. La plénière pour voter sur cette proposition de mise en accusation de Macky Sall n'a pas encore été programmée. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et on en reparlera dans Afrique Éco dans quelques instants avec Juliette Dubois. Bamako ferme les bureaux de Barrick Gold au Mali, selon un communiqué du groupe minier canadien. Il ajoute que les autorités maliennes ont menacé de placer, je cite, sous administration provisoire la mine de Loulo-Gounkoto si celle-ci n'est pas rouverte et des paiements d'impôts effectués. Ce gisement d'or est détenu à 80% par Barrick Gold et à 20% par le Mali. Les deux parties sont en conflit depuis plusieurs mois. Bamako a réformé son code minier et réclame au groupe canadien des centaines de millions de dollars d'arriérés. À Abidjan, l'ouverture de la 17e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anou Mabo, du nom du village où ont grandi les membres de Magic System. L'idée, c'est de partager de la musique, de faire venir des vedettes pour des concerts gratuits, mais c'est aussi de mener en parallèle des actions sociales avec un thème retenu chaque année. L'an dernier, c'était la santé mentale et cette année, c'est le civisme et la sécurité routière qui ont été choisis. Guillaume Thibault.
En jouant des airs de Magic System devenus des hymnes, c'est la fanfare d'Anou Mabo qui a rythmé cette cérémonie. Au cœur de l'INJS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, où se déroule le FEMUA, le festival qui a un parrain d'importance pour cette édition, le vice-président de la République, Tshémoko Miyelekone, qui a laissé la ministre de la Culture, Françoise Remarque, s'exprimer au nom du gouvernement.
Ce festival incarne un formidable trait d'union entre les générations. Il est un pont entre nos racines traditionnelles et les dynamiques de la modernité.
Le FEMUA, c'est aussi de la diplomatie sous-régionale. Invité d'honneur de cette 17e édition, la Guinée, terre sœur de la Côte d'Ivoire, représentée par des artistes, par les danseurs de son célèbre ballet et par le ministre de la Culture, Moussa Moïse Sylla.
Nous sommes venus partager, apprendre et tisser de nouveaux liens. Le FEMUA, par sa capacité à fédérer les énergies et à transcender les barrières, est un laboratoire de l'Afrique culturelle de demain.
Musique, diplomatie et engagement à faire évoluer les mentalités, avec cette année le thème de la sécurité routière, avec toujours plus d'accidents sur les routes malgré la rigueur de l'État. Salif Traoré, à Salfo, commissaire général du FEMUA.
Mais la lutte pour la sécurité routière ne saurait être l'affaire d'une seule entité. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. C'est à cela que le FEMUA veut contribuer, en mettant la musique et la culture au service de cette noble cause.
Guillaume Thibault, Abidjan, RFI.
<t'->
Et de la musique, on va parler de photographie, puisque le photographe congolais Aubin Mukoni figure parmi les lauréats du prestigieux World Press Photo Prix de 2025. Son projet, une série de photos sur la pollution du lac Kivu, a retenu l'attention du jury, qui a salué un travail offrant un éclairage sur l'importance économique et culturelle de ce lac qui se trouve en RDC. Ce lac est aussi le témoin silencieux de l'instabilité qui secoue cette région. C'est ce témoignage qu'Aubin Mukoni a voulu porter à travers son objectif Patient Ligodi.
C'est en 2020 qu'Aubin Mukoni a commencé à documenter ce qu'il appelle le silence du lac. Originaire de Goma, il sillonne les rives du lac Kivu, appareil photo en main, pour raconter les liens invisibles mais puissants qui unissent l'eau et ceux qui en vivent. Il explique par exemple que le commerce de poissons, en particulier les sambaza, petits poissons très prisés à Goma, est au cœur de l'économie locale. Mais aujourd'hui, ces espèces se raréfient, dit-il. Le photographe tire la sonnette d'alarme. Goma, ville d'un million d'habitants, déverse chaque jour des tonnes de déchets dans le lac. Il évoque aussi la pression démographique croissante avec les mouvements des réfugiés et des déplacés. Derrière ces clichés, il y a un message, dit-il, celui de la responsabilité collective. Il appelle à une meilleure gestion de déchets et à une conscience partagée pour préserver ce qu'il considère comme un joyau. À 25 ans, Aubin Mukoni revendique un héritage, celui de son grand-père, lui aussi photographe. Il s'est défini comme un agent de plaidoyer par l'image. Il veut susciter des discussions, provoquer des prises de conscience, ouvrir des débats dans sa communauté. Le prix qu'il vient de recevoir pour son projet, le lac est devenu silencieux. Il le considère comme un début, une première étape. Pour lui, ce travail n'est que le premier chapitre d'un engagement à long terme.
Voilà le lac Kivu, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est une affaire surprenante. Au Kenya, 4 personnes ont été arrêtées pour avoir tenté d'exporter illégalement plusieurs milliers de fourmis vivantes pour les vendre à des collectionneurs en Europe ou encore en Asie. 2 jeunes Belges ont été arrêtés à Nakuru, dans le centre du Kenya. Un Vietnamien et un Kenyan ont été interpellés à Nairobi. Ils sont accusés de possession illégale et de trafic de faune sauvage vivante. À Nairobi, Alban Tiroir.
Les photos partagées par les autorités kenyanes montrent des centaines d'éprouvettes et de seringues contenant des fourmis vivantes avec des boules de coton pour les maintenir en vie. Plus de 5000 insectes ont été saisis pour une valeur estimée à 7 800 $. Parmi les fourmis, des mésorcéphalotes, une espèce très prisée par les collectionneurs de par sa couleur rouge, la taille de sa reine allant jusqu'à 24 mm et ses capacités à former des colonies très nombreuses. Mais au Kenya, les animaux sauvages, dont les insectes, sont strictement protégés. Tout commerce nécessite des permis que ne possédaient pas les 4 trafiquants arrêtés. L'autorité de gestion de la vie sauvage dénonce un crime grave et une opération préméditée. L'agence gouvernementale note une évolution inquiétante du trafic, passant des mammifères emblématiques à des espèces moins connues mais essentielles à l'équilibre écologique. En 2023, 3 personnes avaient déjà été arrêtées au Kenya après avoir tenté d'exporter illégalement des fourmis vers la France. Les 4 personnes arrêtées récemment ont toutes plaidé coupables. Les 2 Belges, âgés de 19 ans, ont assuré ne pas savoir que la collecte de fourmis sauvages était illégale. Alban Tiron Nairobi, RFI.
Et les 4 accusés sont de nouveau attendus devant les tribunaux le 23 avril. Ils restent d'ici là en détention. On passe au football. Ça aussi, c'est un travail de fourmi que d'être entraîneur. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont ici ce mardi soir dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Qualification acquise dans la douleur aux dépens respectivement d'Aston Villa et du Borussia Dortmund. Lors des quarts de finale retour, le club allemand est donc éliminé malgré les 3 buts de son attaquant guinéen Sekou Girassi. Eric Mamrut.
Jamais il n'avait signé un triplé en Ligue des Champions. Sekou Girassi l'a fait ce mardi soir, de surcroît face au Grand Barça, effaçant ainsi sa prestation médiocre du match aller perdu 4-0. Son premier but est une panenka délicieuse marquée sur pénalty dès la 11e minute. Le deuxième, juste après la pause, d'une tête à bout portant suite à une remise de son coéquipier Rami Bensebaini. 2-0, le Borussia Dortmund avait entamé sa remontada, mais le défenseur algérien brisait dans la foulée la dynamique allemande en marquant contre son camp. Cela n'empêchait pas l'insatiable attaquant guinéen de tromper une nouvelle fois Szczesny de près. Score final 3-1 et un épatant triplé inutile finalement pour Guirassy, qui certes reprend la tête du classement des buteurs de cette édition avec 13 réalisations, mais qui n'empêche pas le Barça de retrouver 6 ans après le dernier carré de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain disputera quant à lui sa 4e demi-finale depuis 2020, malgré sa défaite face à Aston Villa. Vainqueur 3-1 à l'aller, le club parisien a mené 2-0 à Birmingham grâce à Hakimi et Nuno Mendes, avant de se relâcher totalement, encaissant 3 buts coup sur coup. Le PSG finalement battu 3-2, mais qualifié, qui garde intact son rêve de décrocher sa première Ligue des Champions.
Et ce mercredi soir, à suivre les deux derniers quarts de finale retour, le Real Madrid reçoit Arsenal après avoir été battu à Londres sèchement 3-0. Il faudra une sérieuse remontada aux Espagnols. L'Inter Milan accueillera quant à lui le Bayern Munich après sa victoire 2-1 en Bavière. Au Sénégal, on en parlait dans le journal, les comptes du pays sont dans le rouge après la révélation d'une dette cachée de 7 milliards de dollars qui aurait été laissée par le régime de Macky Sall. Le Trésor public a lancé une levée de fonds de 150 milliards de francs CFA auprès des populations sur le marché des titres de l'UEMOA. Fin mars, l'objectif est trouver différentes sources de financement pour tenter de réaliser l'ambitieux programme du président. L'opération a été un succès car une semaine avant la fin, plus de 400 milliards de francs CFA ont été levés. Les précisions de Juliette Dubois.
Saisissez une opportunité d'investissement sécurisée avec l'État, pouvait-on lire sur les téléphones de clients de la Société Générale au Sénégal ces dernières semaines. Devant une banque du centre-ville, beaucoup de Dakarois sont séduits par l'idée de prêter de l'argent à l'État. Abdourahmane Sow est standardiste.
Si c'est pour aider, il n'y a pas de problème. C'est le patriotisme, donc je le ferai volontiers.
Cette levée de fonds intervient alors que la dette atteint plus de 100% du PIB, 25 points de plus que ce qui avait été avancé par le régime sortant. Pour Charles, chauffeur coursier, cela fait une raison de plus pour investir dans ces bons.
La situation du pays, là, c'est l'ancien régime qui nous a mis dans cette situation-là, mais pas le régime actuel. Nous tous, nous savons que le Sénégal traverse des moments difficiles. Et c'est à nous, la population, de pouvoir soutenir ce nouveau pouvoir pour qu'on aille de l'avant.
Les taux d'intérêt vont de 6,4 à 6,95% et les bons sont à 10 000 francs CFA l'unité. Mais Yelaba, qui travaille dans la logistique, ne voit pas l'intérêt pour les particuliers.
Je me dis que pour peut-être 1 million, le rendu sur 3 ans, ce n'est pas vraiment intéressant pour moi. Maintenant, je me dis que peut-être pour ceux qui ont vraiment un gros capital, peut-être que ça pourra les intéresser. Mais bon, pour moi, je vais passer.
L'État sénégalais a souvent recours à ce type d'emprunt, mais la situation est particulièrement tendue aujourd'hui. Après les révélations de la Cour des comptes, la note du Sénégal a été abaissée 2 fois par l'agence de notation Moody's et le programme du FMI suspendu. Il faut donc diversifier les sources de financement. Abdou Radredien, professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
C'est sûr que l'emprunt extérieur demanderait des taux de plus en plus élevés parce que les bailleurs de fonds, les investisseurs vont prendre en charge effectivement des situations risquées. Donc en passant par le marché de l'UEMOA, effectivement par le marché des titres publics, l'État peut bénéficier des ressources longues.
Pour Eliman Khan du think tank Lex Africa, un emprunt obligataire ou même la négociation d'un nouveau prêt avec le FMI ne sont pas les stratégies les plus soutenables pour redonner des moyens à l'État.
Je pense que visiblement c'est plus des économies que peut faire l'État sur des lignes qui existaient déjà, sur des types d'investissements qui n'étaient pas très efficients, que l'État peut quand même souffler un peu.
La première phase du programme du président Bassirou Diomaye Faye pour la période 2025-2029 a été chiffrée à 18 000 milliards de francs CFA, soit plus de 28 millions d'euros. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et l'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous pour honorer son rendez-vous dans Afrique Soir. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir à la reine de l'info africaine, j'ai nommé Sylvie Berruet.
Quel flatteur cet Hervé Mandina. Allez ouvrir votre sélection avec le chanteur kényan Willy Paul.
Willy Paul qui a dévoilé Your Body, son nouveau single le 5 avril dernier, un titre à la mélodie accrocheuse accompagné d'un clip tout aussi captivant. Willy Paul y célèbre la beauté féminine avec des paroles tout de même très suggestives. Il n'hésite pas à exprimer son admiration pour les formes généreuses de sa muse et le public semble y adhérer. Le refrain vous invite à la danse et à la célébration de l'amour et moi aussi je vous y invite, Sylvie.
Your body, fire, yeah. Body, you are body. Oh, your body, fire, yeah. Booty so big,
Me love it when you do the dirty when gone. Oh no, put it so big. Me love it when you do the dirty when gone.
What thing you carry in that body make I confirm? Oh. Baby, can I get what I see? Cause I like what I see. If this is a dream, no, no, I don't wanna wake up, no. Una vocata, no, please don't wake me up, no.
Et précisons que l'on peut célébrer l'amour autrement qu'avec un body. On va traverser le continent d'une part à l'autre, puisqu'on débarque en Côte d'Ivoire, cette fois avec le chanteur Rémi Adam.
Oui, de retour avec Chocoroba, une chanson qui allie tradition et modernité dans sa composition. Alors, pour la petite histoire, Chocoroba devait sortir à l'origine le 14 février dernier, mais le chanteur a pris le temps de la réflexion avant de donner un successeur à son précédent single, Mon Combat, qui avait tout raflé. Et donc, pour Chocoroba, Rémi Adam n'hésite pas à se mettre en scène dans la chorégraphie millimétré du clip vidéo qui rajoute au morceau une atmosphère festive et authentique. C'est ma recommandation du jour.
Sur moi tu peux dodo baby da da la 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 da la 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 la. Sur moi tu peux dodo baby da da la 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 da la 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 baby. Bébé dans ce monde y a plus de gardien. Tous tes prétendants sont des malhonnêtes. Oh. Tous ces mangas ne m'égalent pas. Je suis le Chocoroba. En montant des sons, tu seras ma wife. Look me in my eyes. Oh. Je peux tout supporter. Bébé, ne doute pas de moi. Si on ouvre mon cœur, ce qu'on verra, c'est toi. Qui d'autre que toi sera toujours là pour moi. Mathieu la vie. Voilà, il est biffé.
Et on l'a entendu, hein, Rémi Adam ne manque pas de rythme. Et justement, on va ralentir la cadence, Hervé, avec la chanteuse burundaise Vanya Ice.
Vanya Ice qui vient enrichir les sorties musicales burundaises avec son single Uwambere, en collaboration avec l'artiste rwandais Chris MB. Effectivement, Sylvie, on ralentit la cadence puisque ce nouveau morceau est un titre zouk aux influences afrobeat, mais de la région des Grands Lacs. Uwambere, qui signifie le premier en Kirundi, célèbre l'amour et la dévotion avec la voix mélodieuse de Vanya Ice qui s'entrelace harmonieusement avec celle de Chris MD. Et bien avec ça, si je ne vous ai pas vendu le titre, c'est que je n'y connais rien.
Depuis que j'ai posé mes yeux sur toi, Namenyeko, c'est toi qui me forme. Le temps passé à te chercher. Si tu savais, je suis désolé d'avoir traîné. J'aurais dû te trouver plus tôt. Maintenant que t'es là, laisse-moi t'aimer. Te donner l'amour qu'il te faut. Ma bébé, doucement, doucement. Ma vanya, ya, ya. Je serai celui qui t'ouvre les portes. Doucement, doucement. Ma vanya, ya, ya. Prends ton temps quand tu bouges ton corps.
Doucement, doucement. Mon MBO, je serai celle qui t'ouvre les bras. Doucement, doucement. Mon MBO, prends ton temps quand tu bouges avec moi.
C'est une belle mélodie, en effet, Hervé. Allez, on va prendre à présent la direction de la Guyane associée à la Côte d'Ivoire pour conclure cette sélection certifiée Afro Club avec la star du dancehall Bambi qui est en duo avec le rappeur Imra.
Je vois que la scène rap afro-caribéenne aura bientôt plus de secrets pour vous, ma chère Sylvie. Gangsta est la nouvelle collaboration explosive entre Bambi et Imra pour créer un pont culturel entre la Guyane et la Côte d'Ivoire. C'est parfait. Et ça tombe à pic avant les grandes vacances prochaines pour espérer décrocher un top 10 dans les hits à venir. Gangsta rencontre un succès fulgurant et a déjà réussi le pari de se hisser à la deuxième place du classement Apple Music en Côte d'Ivoire. On écoute ça tout de suite et maintenant sur la radio mondiale.
Hey, je suis un José, José, gangsta. Si les dem cache dem, m'achète une fouque Bambi. On va s'en chiqueter, pas de gueule.
La bad gueule est fâchée.
Et c'est avec Bambi et Imra que l'on referme les portes de l'Afro Club de ce mardi 15 avril 2025. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette édition d'Afrique Soir. Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Je rappelle que cette émission est disponible à la demande sur l'application RFI Pure Radio.
Et retrouvez l'Afro Club sur notre site internet RFI.fr. Je vous souhaite une excellente nuit Sylvie, ainsi qu'à toute l'équipe d'Afrique Soir, avec à la réalisation ce soir Jonathan Bredy et à nos auditeurs bien sûr. Je vous retrouve jeudi à ce micro. Salut.
Africa des Souls, un chat à Wally. J'arrive en XL, donc ça va pas t'aller. J'suis comme Bob Marley, Soukali. Elle dit I love you, you dit chop my money. J'suis un José, gangsta. Si les dem cache dem, m'achète une fois Bambi. On va s'en chiqueter, pas de gueule.
La bad girl est fâchée. Il me faut les sous avant d'arrêter. Le bad boy est fâché.
idem.
Il me faut les sous avant d'arrêter.
Yeah, yeah. On va allumer maintenant. Yeah, yeah. J'ai tous les codes.
Et voilà, on termine en musique cette dernière édition d'Afrique Soir, ce qui permet à Antoine Gallen de s'échauffer avant de vous présenter la prochaine édition sur la Radio du Monde. Un grand merci pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Également merci à toute l'équipe d'Afrique Soir. On l'a dit, Jonathan Brady à la réalisation et au mixage, merci. Guillaume Bédran avec nous, attaché d'édition et à la rédaction en chef. Là, ce soir, Alexis Guilleux, bonne soirée.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
la leptospirose, une maladie bactérienne transmise par les rats.
Jeudi,
allergie, une part croissante de la population mondiale est concernée.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.